Europe 1, il est 8h.
Si un salarié est heureux, il va le transmettre au client. Si le client sent que la boîte se sent bien, il sera plus à même de venir chez nous.
Tout le monde va vouloir venir chez eux. Une entreprise où l'on travaille 32 heures par semaine et sur 4 jours seulement, les week-ends vont s'allonger. LDLC promet des embauches et aucune baisse de salaire. Quel contraste avec Air France qui ferme des sites entiers comme dans le Finistère où l'on ne comprend pas qu'on puisse supprimer des postes alors que l'État s'est porté garant pour un prêt à la compagnie.
C'est pas cohérent. Si on prête de l'argent, c'est pour sauver. Pas pour tuer.
Dans ce journal, Volkswagen, BMW, Ford, Fiat Chrysler, Renault, Nissan, PSA. Additionnez tout cela à la bourse et vous n'atteindrez même pas le poids de Tesla, nouveau titan, 207 milliards de dollars. Une diplomatie franco-turque brouillée et une gestion brouillonne de l'OTAN. Vincent Hervouet va nous éclairer sur les graves dissonances au sein de l'Alliance Atlantique. Et puis, outre leur musicalité irréprochable, quel est le point commun entre Macumba, les démons de minuit et Despacito? Eh bien, les textes de ces tubes de l'été.
Des paroles légères, qui essayent d'être insouciantes, qui parlent d'amour, de rencontres, de flirt, de vacances aussi.
À 8h15, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, au micro de Sonia Mabrouk. 8h30, une filière où règnent les emballages à usage unique. La livraison de repas peut-elle arriver au zéro déchet? Vos témoignages sur le hashtag Europe 1. Laura Châtel de l'association Zero Waste France avec nous. 8h45, la revue de presse de Nicolas Canteloup, bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Travailler moins pour gagner autant. Ce n'est pas le lifting d'un slogan politique ni une proposition de la Convention citoyenne. Non, c'est pour de vrai une semaine de 32 heures dans une entreprise de commerce sur Internet. Tout ce qu'il y a de plus ancré dans l'économie.
LDLC, basé à Lyon, 900 salariés. Si on fait le compte, ils auront désormais 3 jours de week-end par semaine. Et au passage, Jean-Luc Boujon, cette entreprise embauche.
Vivement qu'on signe cet accord, s'est exclamée la déléguée CGT lorsqu'elle a appris la nouvelle. C'était il y a quelques jours, quand Laurent de la Clergerie, PDG de LDLC, a dévoilé son projet. Instaurer pour ses 900 salariés la semaine de 32 heures payée 35, le tout sur 4 jours.
J'ai plaisanté en l'expliquant aux salariés en disant « je vous garantis, j'avais pris aucune substance illicite, j'étais dans mon état normal ». En fait, je pense qu'au final, je vais m'y retrouver, que la boîte va s'y retrouver, parce que les gens vont être heureux. Comme ils vont être bien, ils vont être plus efficaces. Si un salarié est heureux, ça s'entend. Si un salarié est heureux, il va le transmettre au client. Si le client sent que la boîte se sent bien, il sera plus à même de venir chez nous.
Une manière pour ce patron de concrétiser sa philosophie du bien-être au travail, mais s'il peut le faire, c'est aussi parce que LDLC se porte bien, avec des bénéfices de 16 millions cette année, les salariés comme Kevin sont aux anges.
C'est vrai que quand on le dit dans notre entourage, ça fait un petit peu sauter de la chaise, ça montre une vraie confiance de la part des dirigeants envers les salariés, en notre autonomie à faire notre travail. Socialement, c'est un gros gain pour nous.
Cerise sur le gâteau, la société devrait embaucher pour compenser cette baisse du temps de travail plusieurs dizaines de personnes. Une situation incroyable, surtout en ces temps de crise économique. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
La crise économique qui a très durement frappé l'industrie aéronautique. On parlait ici même hier d'Airbus. De son côté, Air France KLM fera ses annonces demain. Mais le chiffre de 7500 suppressions de postes d'ici 2 ans est déjà connu.
On sait que les lignes régionales de la filiale HOP sont sur la sellette avec des conséquences au sol, comme à Morlaix, où un centre de maintenance et d'entraînement au pilotage pourrait disparaître, François Coulon.
800 personnes travaillaient sur le site de Morlaix il y a 7 ans. Le centre de maintenance devrait être purement et simplement rayé de la carte d'ici à 2023. 276 suppressions de postes, un cataclysme dans une ville de 15 000 habitants dont le taux de chômage dépasse les 20%. Benoît, 33 ans d'ancienneté.
On est en colère, c'était notre bébé. On avait participé à créer cette entreprise, saboté qu'en fait. C'est vraiment une catastrophe. Ici, il y a des gens qui travaillent en famille, il y a le mari et la femme. Trop jeunes pour avoir des retraites, trop vieux pour trouver autre chose. Et puis dans le milieu ici, aéronautique, il n'y a rien. Obligé de partir. Les gens sont effondrés. Moralement, c'est pas facile à vivre. On fait notre travail de deuil entre nous. On va perdre quelque chose de gros. Une famille, c'est un déchirement.
Qu'est-ce qui vous met le plus en colère?
C'est pas cohérent. Si on prête de l'argent, c'est pour sauver, pas pour tuer.
On ne se laissera pas faire, clame le nouveau maire socialiste de Morlaix qui demande au Premier ministre un rendez-vous express et appelle à une mobilisation de tous les élus bretons pour sauver la plateforme. Morlaix, François Coulon, Europe 1.
Dans ce contexte, l'insolente santé d'un constructeur automobile américain. Ses voitures sont silencieuses, mais cette entreprise est ronflante en bourse. Tesla, la marque qui ne propose que 3 modèles, très chers, tout électriques, vaut plus de 200 milliards de dollars sur les marchés et vient de dépasser à ce titre Toyota.
Bonjour Flavien Neuvy.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire 7LM de l'automobile. Cette valorisation d'une entreprise qui vend nettement moins de voitures que les groupes historiques du secteur, est-ce que ça a du sens?
Ouais, c'est incroyable quand on refait un peu l'histoire de Tesla, on se rend compte que c'est une succession de pronostics sombres démentis. C'est-à-dire que quand Tesla s'est lancé, d'abord créer un constructeur en partant de zéro, personne n'y croyait. Et en plus, Elon Musk a décidé de créer un constructeur sur le segment de l'électrique à une époque où personne ne croyait à l'électrique. Et aujourd'hui, même s'il vend évidemment beaucoup moins de voitures que les grands constructeurs mondiaux, il a quand même réussi son pari de produire de façon industrielle des modèles électriques qui coûtent très cher.
Donc réussite très forte, on le comprend, mais est-ce que ce n'est pas une bulle finalement ?
C'est difficile de répondre à cette question parce que ceux qui achètent aujourd'hui des actions Tesla sont des gens qui font un pari sur l'avenir. Et c'est vrai que quand on voit les réglementations, notamment en Europe, tout pousse vers l'électrification des véhicules. Donc on peut dire que l'avenir de la voiture électrique semble assez prometteur. Et de ce point de vue-là, Tesla, qui est le seul constructeur mondial à être 100% électrique, hein, c'est un pur player de l'électrique, semble avoir un coup d'avance.
Parmi les fournisseurs qui travaillent pour Tesla, on trouve les Français Saint-Gobain ou encore Michelin. Est-ce que cette réussite du constructeur, ça les met aussi dans la lumière ?
Oui, indirectement, sachant que les volumes de Tesla, malgré tout, restent assez modestes. Hein. C'est 20 fois moins de voitures que le top 3 mondial, General Motors, Toyota ou Volkswagen. Mais c'est vrai que c'est bien d'être avec ce constructeur parce que ça donne l'image d'une voiture innovante, en quelque sorte. Et encore une fois, d'un constructeur qui avait un coup d'avance sur l'électrique.
Merci Flavien Neuvy. Merci beaucoup, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, l'invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct ce matin.
Cela fait plus d'un mois qu'on parle de remaniement. Une source à l'Elysée évoque un changement d'équipe avant mercredi de la semaine prochaine. D'ici là, Jean-Rémy Baudeau, on commence à trouver le temps long dans la Macronie.
En apparence, tout est normal. Un influent député qui enchaîne les réunions entre l'Élysée et Matignon le confie. Rien ne laisse penser qu'il y aura bientôt un remaniement. Et pourtant, un nouveau gouvernement est annoncé avant mercredi prochain et cette attente n'est pas sans conséquence. À la santé, l'activité est forte. On est en pleine négociation du Ségur. Mais un conseiller s'alarme. En cas de démission du gouvernement, comment on fait si on n'a pas le ministre pour discuter avec les soignants ? Dans un autre ministère, autre ambiance. L'activité est quasiment à l'arrêt. On gère les affaires courantes, on suit les réformes, mais aucun nouveau projet n'est lancé. Il faut ranger ses dossiers, que tout soit clair pour son éventuel successeur, explique un membre de cabinet. Dans ces périodes, les rumeurs vont bon train, des listes de noms circulent. Franchement, c'est pénible, juge une collaboratrice qui ne sait pas si son ministre est reconduit. En réalité, personne n'en sait rien. Le président est le seul à décider, tranche un proche du Premier ministre. À Matignon, on se prépare d'ailleurs à l'éventualité d'un départ. Certains y avaient déjà fait des cartons au moment des gilets jaunes et n'ont pas toujours eu le temps de les défaire.
Europe 1, il est 8h08.
Merci pour les bébés. Il n'y a plus de glyphosate dans les couches. En tout cas, les relevés de la répression des fraudes sur 32 modèles de couches vendus en France montrent des améliorations très nettes. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Parisien. Aucune substance toxique au-dessus des seuils recommandés.
Si vous avez des lycéens à la maison, ils ont dû transpirer à l'évocation même de ce sigle E3C, les épreuves communes de contrôle continu. C'était la nouvelle formule du bac. Eh bien, ça va rechanger dès la rentrée prochaine. Les détails avec Virginie Salmen.
D'abord, elle change de nom. Terminer ce terme barbare 2-3-C. Désormais, elles s'appelleront sobrement épreuves communes, histoire de faire retomber la pression de l'examen pour les lycéens. Il y avait deux sessions d'épreuves pour les élèves de première, l'une en janvier, l'autre en mai. Mais les professeurs estimaient que faire passer des épreuves dès le mois de janvier, c'était plus du bachotage qu'autre chose et qu'ils avaient moins le temps de faire de vrais cours où on apprend. À partir de l'an prochain, il n'y aura plus de date imposée. Le calendrier sera fixé dans chaque lycée. Mais est-ce que cette souplesse suffira à calmer les profs qui ont participé au blocage de lycée l'an dernier ? Pas sûr à entendre Lisiane Gervais, représentante des proviseurs du SNPDEN.
Je ne sais pas si les enseignants sont vraiment contents puisque eux aussi demandaient la suppression des premières évaluations de première, pour qu'il y ait un vrai apprentissage et à la fin de l'année, on pouvait évaluer.
Les proviseurs, eux aussi, sont pour une suppression pure et simple de ces épreuves en cours d'année. Ils préféreraient garder un seul examen final pour le bac.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. La France se retire d'une opération de l'OTAN après la manœuvre hostile de la marine turque.
Et puis un autre pas de deux, mais celui-ci sur les dance floors avec les tubes de l'été que vous aurez bientôt en tête en permanence.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal. François Geffrier, Mathieu Béliard.
C'est censé être une alliance, mais au sein de l'OTAN, la France et la Turquie apparaissent clairement comme des amis fâchés.
Oui, Paris réclame une enquête et se retire de l'opération près de la Libye, cette mission qui doit faire respecter l'embargo sur les armes. Vincent Hervouet, tout cela vient de l'accrochage d'il y a 3 semaines en Méditerranée.
Oui, au large de la Libye, le 10 juin, la marine de guerre turque escorte un cargo. Il est bourré d'armes pour ses protégés libyens. Les Turcs se moquent de l'embargo que l'OTAN prétend imposer. Les frégates turques arborent même les couleurs de l'Alliance. Elles s'identifient avec leur code OTAN. Le contrebandier a passé l'habit du douanier. La frégate française qui approche est un navire OTAN, sous commandement OTAN, menant une mission de l'OTAN. Les Turcs pointent leurs missiles. Avec des alliés pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Le comble est à venir. Quand Paris se plaint, le secrétaire général de l'OTAN minimise. Jens Stoltenberg s'était déjà fait remarquer en applaudissant la retenue des Turcs quand ils ont envahi la Syrie et chassé nos alliés Peshmerga. Stoltenberg ne refuse rien aux Américains qui ne refusent rien aux Turcs. À coup sûr, son enquête a noyé le poisson.
C'est pour cela que l'Élysée a donné l'ordre de repli.
Oui, c'est la posture gaullienne, on se cabre un pied dedans, un pied dehors. L'Alliance Atlantique repose sur des valeurs, des intérêts communs, et avec Erdogan, on se demande lesquels. La première fois qu'Emmanuel Macron a dit que l'OTAN était en mort cérébrale, les Européens l'ont trouvé irresponsable, c'était en décembre. 6 mois après, le président se répète, démonstration faite. L'ennui, c'est que 8 pays seulement ont soutenu la France, 8 sur 25. L'OTAN est peut-être sénile. L'Europe de la défense est peut-être mort-née. Entre les deux, la France suit son cap, mais elle est seule.
Le regard international de Vincent Hervouet tous les jours à 8h sur Europe 1.
50 000 cas de coronavirus détectés en un seul jour aux États-Unis. Un nouveau record. La Californie interdit de nouveau le service dans les salles de restaurants. Idem dans le Michigan. En Floride, des plages ont été fermées.
Le football, on l'entendait dans le journal de 7h, la position ferme du propriétaire de l'OM, Franck McCourt. Son club n'est pas à vendre. Mais selon Christophe Bouchet, ancien président de l'Olympique de Marseille, si une très belle offre passe, ce sera très difficile pour lui de la refuser, vu les montants qu'il a investis. C'est ce qu'il disait au micro d'Europe 1, Christophe Bouchet, invité il y a une demi-heure.
Nous sommes déjà le 2 juillet. Il y a urgence. Se préoccuper de nos playlists de l'été.
En effet, avec cette grave question, Angèle Châtelier, quels seront les tubes de 2020 ?
Rythme dansant, ambiance de vacances, Habibi de Kenji Girac a ses chances pour devenir le tube de l'été 2020. Car il respecte tous les ingrédients d'un bon tube de l'été, comme l'explique Jean-Marie Potier, co-auteur du livre « Sans un tube de l'été ».
Ça va des rythmes dansants, parce que évidemment l'été on aime danser, on aime faire la fête. Parmi les ingrédients, il y a aussi des paroles légères qui essayent d'être insouciantes, qui parlent d'amour, de rencontres, de flirt, de soleil, de vacances aussi.
Une recette qui avait fait de Despacito le tube de l'été 2017. Premier clip à avoir atteint 3 milliards de vues sur YouTube à l'époque. Lady Gaga n'en est pas là, mais son album Chromatica, sorti fin mai, s'est déjà vendu à 300 000 exemplaires. Son single Stupid Love, techno et dansant, a ses chances pour être le tube de l'été 2020. Mais les tubes de l'été ne sont plus éternels. La musique ne se consomme plus uniquement sur les radios. Avec les plateformes de streaming, l'offre est généreuse. Chacun peut écouter ce qu'il veut et pas qu'un tube.
Bon, le message dans tous les cas, c'est Vamos a la playa.
C'est ça. Un jour, je vous présenterai la playlist de François Geffrier. Un jour, nous aurons le temps, bien sûr. Merci François, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. 8h15, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un candidat social-écologiste pour 2022, oui mais plutôt socialiste ou écologiste. Qui va se ranger derrière qui ? Le rose est-il soluble dans le vert ? L'heure est à la clarification pour notre invité, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
A tout de suite sur Europe 1.
8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Olivier Faure.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Pourquoi les socialistes ont renoncé à gouverner ?
Ah bon ? Où avez-vous entendu ça ? Nous n'avons renoncé à rien, au contraire.
C'est vous avez exclu la possibilité d'un candidat socialiste en 2022.
Je n'ai absolument rien exclu. Je dis simplement que ce qui, moi, me rendrait vert de rage, ce serait d'avoir une fois encore à assumer un deuxième tour qui opposerait Marine Le Pen à Emmanuel Macron.
Pourquoi un candidat socialiste, c'est aller vers l'échec ?
Est-ce que je vous ai dit ça ? J'ai dit simplement qu'il faut maintenant constituer un bloc social et écologique. Et dans ce cadre-là, rien n'est dû, ni aux socialistes, ni aux écologistes, ni à personne. Et qu'il faudra, le moment venu, choisir celui ou celle qui est en mesure d'incarner ce bloc social et écologique et en même temps d'être, de nous porter à la victoire.
Mais Olivier Faure, deux ans avant la présidentielle, vous annoncez, vous laissez fortement penser qu'il n'y aura pas de candidat socialiste. Vous imaginez vos amis, entre guillemets, ce matin en entendant cela ?
Mais je n'ai rien laissé entendre de la sorte. J'ai simplement dit, depuis plusieurs jours, depuis qu'on m'a interrogé sur cette question, que l'évidence, c'est qu'il faudra éviter ce que nous avons déjà connu trop souvent. Vous vous rendez compte, Sonia Mabrouk, que si nous n'étions pas au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2022, ce serait la troisième fois en 20 ans. Ça n'est plus une exception, ça devient la règle. Et moi, je refuse cette règle-là. Je veux absolument gagner, offrir une alternative aux Françaises et aux Français, ce qu'ils ont déjà perçu au moment des municipales.
Est-ce qu'on peut encore gagner ? Est-ce que vous pouvez encore gagner, M. Faure, avec un candidat socialiste ? Ce matin, la question est claire, finalement. Est-ce que vous avez encore foi en les socialistes ?
Mais bien sûr que j'ai foi. Je suis Premier secrétaire des socialistes. Et donc, je crois effectivement au message que nous portons. Mais ce que je crois, c'est aussi que nous ne pouvons plus arriver divisés. Si nous sommes divisés à l'élection présidentielle, ce qui s'est passé trop souvent, nous connaissons l'effet de tout cela. C'est que ce sera un deuxième tour qui sera celui que nous avons déjà connu en 2017. Et je ne m'y résous pas, et je ne m'y résoudrai jamais, parce que la première chose que je veux, c'est en finir avec la politique qui est conduite aujourd'hui, et ne pas prendre le risque d'avoir demain Marine Le Pen au pouvoir.
Oui, mais avant demain, vos amis, entre guillemets, là encore, craignent, Olivier Faure, un nouveau coup de poignard, que vous refassiez le coup des européennes. Vous aviez placé, préféré Raphaël Glucksmann, un socialiste pur jus.
Mais
c'est possible ?
Mais ce que je vous dis, Sonia Mabrouk, c'est qu'il faudra choisir quelqu'un qui vient de ce bloc social et écologique. Que rien ne nous est dû à nous, mais pas plus aux autres, et qu'il faudra faire la démonstration que nous sommes, que nous avons dans nos rangs, le ou la meilleure.
Mais
c'est ce que je souhaite, bien sûr. Et c'est ce que je souhaite, et je ferai tout pour cela.
Il y a quelqu'un qui a entendu votre message 5 sur 5, c'est Ségolène Royal. Elle se dit prête. Vous lui dites banco, elle est légitime ?
Ségolène Royal a dit quelque chose que j'ai entendu. Elle a dit « je suis prête ». Et visiblement, il y a d'autres socialistes ou d'ex-socialistes ou des écologistes qui sont aujourd'hui prêts à relever le gant.
Est-ce qu'elle a l'expérience et l'identité écologique ?
Je vais jusqu'au bout de ce que je viens de vous dire. Ce qu'elle dit, c'est que je suis prête à m'effacer devant celui ou celle qui serait le mieux placé pour l'emporter. Il y a deux conditions à la victoire. C'est d'abord d'avoir un projet commun, d'arriver à faire en sorte que nous puissions ensemble parler la même langue et proposer le même chemin, et ensuite avoir le candidat ou la candidate qui
vous
va mettre de
gagner. Vous ne me répondez pas sur elle. Est-ce qu'elle est légitime ? Est-ce qu'elle est l'une des meilleures socialistes avec cette identité écologique ?
Mais Sonia Mabrouk, d'abord, Ségolène Royal vous a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle n'était plus socialiste. Donc ça n'est pas à moi de dire. Il y aura des gens, peut-être même issus de la société civile, qui seront candidats à cette fonction-là. Je n'en sais rien. Je dis simplement
que prenons les choses. Mais
pourquoi
vous me citez tout le monde sauf des socialistes, Monsieur Faure ? On a l'impression que vous avez déjà entériné l'effacement du Parti socialiste,
mais
vous qui en êtes le premier secrétaire.
L'effacement, Sonia Mabrouk, ce serait de perdre l'élection présidentielle trois fois en 20 ans. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Moi, je vous dis que non. Et donc, je ne dis pas... Enfin, voilà, je n'irai pas plus loin. Moi, je voudrais qu'on prenne les choses dans l'ordre. Dans
mais
l'ordre.
Nous, on aimerait
et
comprendre
l'ordre,
ce matin.
Et l'ordre, c'est d'abord avoir un projet, oui, et ensuite chercher une incarnation.
Bien sûr, mais entre Yannick Jadot et Ségolène Royal, M. Olivier Faure se sent le plus proche de qui ?
Mais je ne répondrai pas à cette question.
Pourquoi ? Elle est légitime.
Mais des gens qui sont... D'abord, il y en a beaucoup d'autres, on pourrait citer beaucoup d'autres noms, et je ne le ferai pas parce que je ne veux pas entrer dans ce débat-là. C'est ce débat-là qui nous a déjà perdu si souvent. On s'est toujours posé la question de savoir qui. Et on a eu des écuries présidentielles, les unes après les autres.
Allons sur le projet, mais c'est plutôt le projet des socialistes ou des écologistes ?
Mais je souhaite qu'il y ait un projet commun.
Mais jusqu'où
vous êtes
compatible ?
Nous aurons le nôtre, nous, et nous débattrons avec les écologistes, et nous verrons comment nous pouvons avancer. Mais vous avez bien compris une chose, c'est que vous parliez des européennes à l'instant. Aux européennes, la gauche, toute rassemblée, elle fait plus que le Rassemblement National, elle fait plus que La République En Marche. Et parce que nous sommes divisés, le soir du tour unique, eh bien on dit que c'est la victoire du RN, et que derrière, c'est La République En Marche.
Olivier
Est-ce
Faure,
qu'on
on
veut encore revivre
cela.
Ça Pas moi.
Pas vous, mais moi je ne sais plus à qui je m'adresse ce matin. Est-ce que c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, ou est-ce que c'est le leader des écologistes ?
Mais vous l'aurez compris, en tout cas je l'espère, je suis socialiste, je le reste, je ne suis pas écologiste. Mais ce que je dis aussi, c'est que nous ne pouvons plus faire les uns sans les autres. À force de penser uniquement à son propre drapeau, ne pas penser aux Françaises et aux Français qui attendent et qui espèrent avec nous, eh bien, on finit par passer à côté de tout. Les Français qui ont voté le 28 et qui ont voté pour cette liste sociale et écologique, vous croyez qu'ils attendent quoi ? Qu'on se batte encore comme on l'a fait si souvent ? Que la querelle des égaux revienne ? Que chacun pense d'abord à lui avant de penser au collectif ?
Tiens, ça vous énerve, là, on dirait que...
Mais oui, ça m'énerve, parce que je pense effectivement...
Qui vous énerve, d'ailleurs ? J'ai l'impression que ce sont vos camarades, les socialistes.
Ce qui m'énerve, c'est la perspective de l'échec. C'est la perspective qu'on puisse encore une fois penser que l'on peut échouer. Non, on ne peut plus échouer. Est-ce que vous pensez que les gens qui souffrent depuis 3 ans de la politique qui est conduite ont encore 5 ans de plus à attendre ? Mais moi, je vous dis que non. Je vous dis que, est-ce que la planète, elle peut encore attendre 5 ans de plus ? Je vous dis que non plus.
Mais monsieur Faure, est-ce que les militants socialistes qui vous écoutent ce matin se demandent s'ils ont encore une chance aujourd'hui de voir leur couleur portée ? Est-ce que le rose se dilue complètement dans le vert ?
Mais le rose ne se dilue pas dans le vert et le vert ne se dilue pas dans le rose. Il y a nécessité de bâtir une offre commune. Cette offre commune, elle passera forcément par la recherche d'un chemin commun.
C'est bien ça.
Bien sûr.
Mais des exemples concrets, jusqu'où vous êtes compatibles ? Il y a des sujets de vie quotidienne. Par exemple, je prends le cas de ce nouveau maire écolo de Bordeaux, Pierre Hermé, qui veut ouvrir un débat sur la 5G, pointant ses dangers. Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point ? C'est dangereux la 5G, c'est nocif pour la santé, pour l'environnement ?
Mais c'est pas seulement une question de nocivité pour la santé, c'est aussi une question d'énergie qui est pompée par la 5G. Et donc, est-ce que aujourd'hui nous avons les moyens de cela ou pas ? Le débat est posé par Pierre Lhermitte, il est posé par beaucoup d'autres, par Johanna Roland à Nantes, etc. Et donc, posons-nous les questions et répondons-y ensemble. Pourquoi il faudrait que systématiquement on renvoie les sujets qui font débat à des arguments d'autorité. Moi, je préfère qu'on en débatte.
Et est-ce que, comme les écologistes, vous vous êtes réjouis lors de la mise à l'arrêt de Fessenheim ?
Oui, c'était un engagement de François Hollande et il a été tenu et c'est très bien.
Pourtant, cette décision risque, monsieur Faure, d'augmenter en flèche les émissions de CO2. Ça aura très probablement un impact négatif sur la biodiversité. Mais vous vous réjouissez de la décision ?
Je vous rappelle que Fessenheim est la plus ancienne centrale de France et qu'elle était plus souvent à l'arrêt qu'en marche et qu'il fallait de toute façon l'arrêter.
Elle n'était pas pour autant ni dangereuse, ni...
C'est vous qui le dites.
Vous pensez le contraire ?
Moi, ce que je dis, c'est que nous avions déjà pris l'engagement avec François Hollande en 2012, de fermer cette centrale qui est la plus vieille de France et il faudra en fermer d'autres parce que l'évidence, c'est qu'il y a un âge limite à partir duquel on prend des risques avec ces centrales. Voilà.
Est-ce que, comme certains maires écologistes, Olivier Faure, vous êtes pour l'interdiction des voitures et pour des villes, je cite, 100% cyclables et marchables ? C'est pas beau, je sais, mais c'est ce qui est dit.
Je suis... écoutez, regardez ce qui se passe aujourd'hui
dans
une ville.
Mais vous êtes 100% écolo, en réalité. Je vous ai cité les 3 grandes perspectives des maires verts. Vous êtes totalement compatibles.
Je pense que nous sommes compatibles. Mais il y a aussi des sujets sur lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord. Et
Un exemple ?
Je ne vous donnerai pas d'exemple parce que je ne veux pas vous
peut-être la perspective décroissante de certains verts.
Je ne suis pas décroissant, effectivement.
Eux le sont ?
Non, j'espère qu'ils ne le sont pas.
Vous espérez, vous n'êtes pas sûr.
Il y a des clarifications à opérer pour eux, comme pour nous, parce que le chemin que nous allons construire ensemble, il suppose que nous nous parlions et que nous allions jusqu'au bout de ce débat. Il y a bien sûr des questions que je me pose chez les écologistes et il y a des questions qu'ils se posent sur nous. Et ça suppose évidemment qu'on avance et que derrière ces ambiguïtés qui seraient levées, nous trouvions le chemin qui conduit à la victoire et qui conduit surtout au changement. Changer la vie, protéger la vie. Voilà le projet que nous pouvons nourrir ensemble.
On va conclure, ce ne sera pas un chemin de rose, permettez-moi ce jeu de mots.
Ce sera un chemin de rose, peut-être de tournesol aussi, et c'est très bien. Voilà.
C'est à voir. Merci Olivier Faure d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h26. Europe 1. On a parlé des déchets plastiques, des emballages, des plastiques à usage unique. Brune Poirson recevait hier au ministère de la Transition écologique les entreprises de livraison de repas, notamment. Nous étions avec Frishti à 6h40 en direct. Nous accueillons à présent à 8h30 l'ONG Zero Waste France pour évoquer justement cet enjeu de la réduction des déchets, d'un meilleur tri peut-être, la question de la consigne. Et vous allez nous dire, vous, sur le hashtag Europe 1, ce matin, comment vous faites cet effort de réduire les déchets, de mieux trier ? Vous avez des questions peut-être à poser à Laura Châtel, qui sera mon invitée dans un instant. Restez bien sur Europe 1, il est 8h27.
Europe 1, il est 8h29, vous êtes avec Mathieu Béliard. Recyclage, emballage, reconditionnement, comment plus réduire nos déchets ? Vous posez vos questions à Laura Châtel de l'ONG Zero Waste France sur Twitter, hashtag Europe 1.
Bonjour Laura Châtel.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Zero Waste France, c'est une ONG, une association qui se bat pour la réduction des déchets Vous visez le zéro, hein, c'est dans le nom de l'ONG, le zéro déchet. Alors simplement, nous avons beaucoup parlé ce matin de cette réunion organisée hier au ministère de la Transition écologique entre des entreprises qui livrent des repas à domicile ou en entreprise, bien sûr, la ministre de la Transition écologique et solidaire, et vous-même, vous étiez de cette réunion. Alors on nous dit que le ton était ferme du côté de Brune Poirson. Est-ce que c'était le cas? Vous allez me servir d'arbitre ce matin, Laura Châtel.
Ah bah c'est gentil de me donner cette responsabilité, mais effectivement le ton côté ministère était assez ferme, et ce que l'on a apprécié nous côté ONG, c'est que la demande était aussi assez claire. Elle visait vraiment à réduire les emballages à usage unique, donc à viser la réutilisation, c'est-à-dire le fait de en gros laver l'emballage pour pouvoir le réutiliser plutôt que de le jeter directement à la poubelle. Et ça c'est intéressant parce que c'est bien sûr là où on peut avoir le gain écologique le plus important. Et j'ai trouvé que de ce point de vue-là, la demande du ministère était assez claire à destination de ces entreprises. Ça veut dire pour elles changer de modèle. Donc c'est vrai que c'est un gros changement, mais c'est très important d'être justement clair sur la demande pour que le changement puisse être initié.
Alors, par le passé, on a beaucoup parlé des fast-food. Là, en l'occurrence, on parle de la livraison de repas parce que c'est un secteur qui utilise énormément de plastique, énormément d'emballages, le plastique à usage unique. Laura Châtel, je voudrais, comme première auditrice, vous lire le message d'Adeline parce que je le trouve assez parlant. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, nous écrit Adeline, c'est peut-être la question à se poser. Emballage individuel plus facile à manipuler et à répartir, plastique plus léger, moins fragile. Comment, c'est sa question, comment faire marche arrière sans reculer?
Ah bah c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, c'est assez simple, c'est qu'effectivement, comme le souligne Adeline, en fait, l'emballage, notamment l'emballage plastique à usage unique, est à la fois très très peu cher et à la fois extrêmement pratique, notamment pour une entreprise, parce qu'en fait, à partir du moment où vous commercialisez un emballage à usage unique, vous n'avez pas à vous préoccuper de sa fin de vie. Il va pas vous revenir, vous n'avez pas à gérer cet emballage. Et donc forcément, il s'est imposé de manière complètement généralisée. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas intégré en fait dans le coût de l'emballage et dans nos pratiques le coût environnemental de ce déchet. Et malheureusement, c'est un déchet qui va mettre plusieurs centaines d'années à se dégrader, donc qui va s'accumuler dans nos décharges ou bien brûler dans nos incinérateurs et produire des gaz à effet de serre. Donc c'est un déchet qui va avoir un impact, mais c'est vrai que au moment de choisir entre un emballage jetable ou un emballage réutilisable, c'est vrai que l'emballage jetable s'impose parfois comme le choix évident pour une entreprise qui n'est pas forcément directement confrontée à ses conséquences environnementales.
Alors j'ai la question d'Olivier, ce qui me permet de rappeler qu'à 6h40, nous recevions Julia Bijaoui, qui est fondatrice de l'entreprise Frishti, qui était donc autour de la même table que vous, hein, hier, l'entreprise Frishti au ministère. Olivier réagissait en nous demandant si c'est vraiment plus propre les plastiques en maïs ou en pommes de terre. Les fameux amidons de maïs, c'est ça, hein.
Oui, voilà. Alors, il y a différents types. Il y a des amidons de maïs. Il y a aussi beaucoup de canne à sucre qui sont utilisés dans ces emballages qu'on dit biosourcés, qui sont parfois en PLA aussi. Il en existe. Il faut être extrêmement vigilant sur ces alternatives. PLA, donc c'est un type de résine plastique qui est parfois issue de résidus de lait. C'est ces plastiques qu'on appelle biosourcés qui sont en fait produits en partie à partir de matières de la biomasse, donc de matières issues du végétal en gros, par opposition aux plastiques d'énergie fossile qui sont issus du pétrole ou du gaz de schiste, etc. Donc c'est évidemment intéressant d'intégrer des matières plus naturelles dans ces plastiques. Le problème, c'est qu'il faut être très vigilant sur d'où viennent ces matières, hein. Comme je parlais par exemple de l'exemple de la canne à sucre, c'est souvent pas une production très locale, à moins que vous soyez en outre-mer, c'est pas très intéressant. Et puis surtout, on reste sur de l'usage unique en fait avec ces plastiques, donc on ne règle pas vraiment le problème du déchet. Ça va quand même être un emballage qu'il va falloir jeter, qu'on va très rarement pouvoir composter en réalité parce qu'il n'existe pas les filières nécessairement. L'intérêt surtout, c'est d'arriver à basculer vers du réutilisable. Et c'était en plus le message envoyé par le ministère, hein, qui la ministre a aussi mis en garde contre le fait de perdre du temps sur ces solutions qui sont pas très intéressantes en fait d'un point de vue environnemental.
Je vois plusieurs messages, hein, qui disent en substance la même chose. Je pense à Fabrice, pourquoi ne pourrait-on pas déjà, chaque usager susceptible de prendre des repas à emporter, avoir son propre nécessaire, fourchette, couteau, cuillère. Renko nous écrit des couverts dans les plateaux repas. A-t-on vraiment besoin de couverts de verre? Les Français peuvent avoir leur couvert personnel au bureau, les consignes sont ridicules. Il faut aussi, parce qu'on vise les industriels, on vise les acteurs du secteur, mais il faut aussi à un moment responsabiliser les consommateurs.
Complètement. Je pense qu'il faut responsabiliser tout le monde, en fait, dans cette affaire. Et ça va marcher si tout le monde se responsabilise, parce que parfois, le consommateur a l'impression qu'il en fait trop et qu'il est seul à faire quelque chose. Parfois, c'est les entreprises. Donc, évidemment, l'idée, c'est que tout le monde se responsabilise. Un geste très simple qu'on peut faire, effectivement, si on consomme souvent à l'extérieur, c'est d'avoir son petit set de couverts bien emballé quelque part dans son sac. Comme ça, au moins, on peut l'utiliser très facilement. Après, quand on parle des emballages, vraiment, de ces boîtes réutilisables, là, c'est quand même intéressant que les entreprises se mettent à développer des systèmes, parce que tant que c'est au client de ramener sa propre boîte, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais vous pouvez l'oublier, c'est quelque chose d'assez contraignant. Donc l'intérêt de généraliser ces pratiques à l'échelle d'entreprise, de standardiser les contenants, de faire en sorte que vous puissiez ramener votre boîte sale n'importe où, dans n'importe quel commerce très facilement, ça c'est ce qui va permettre de démocratiser, on va dire, ce geste zéro déchet. Donc c'est là que c'est intéressant aussi que les entreprises se responsabilisent et proposent ces nouveaux services en fait à leurs consommateurs.
8h36. Europe 1. Donc chacun doit y mettre du sien, on comprend l'idée. Et on a des témoignages d'auditeurs justement qui font des efforts pour réduire leurs déchets sur le hashtag Europe 1. Je vous garde avec nous, Laura Châtel. Nous revenons dans quelques secondes.
Europe 1, il est 8h37. Vous dialoguez avec Laura Châtel de l'ONG Zero Waste France. Votre invité Mathieu Béliard. Comment réduire encore plus nos déchets? Vos questions, réactions sur Twitter, hashtag Europe 1.
Une donnée, tiens, pour nos auditeurs. L'éco-organisme Citeo, qui est en charge du recyclage et du tri des déchets, nous apprend que 70% des produits d'emballage ont été recyclés l'an dernier en France. C'est bien, mais peut mieux faire. 70%, cela dit, 29% seulement des plastiques sont concernés. On a un vrai problème avec le plastique. Alors Laura Châtel, je vais vous lire le message de Marguerite qui nous écrit sur le hashtag Europe 1. Le zéro déchet, c'est sac en tissu maison pour les légumes et tous les produits secs, bidon pour les produits ménagers, boîte pour la viande, le fromage et le poisson. Je continue son message dans la foulée, mais c'est ce genre de comportement que vous encouragez de sortir faire ses courses avec de quoi emballer sans avoir de plastique à jeter en arrivant à la maison.
Oui, bien sûr. C'est des gestes emblématiques, effectivement, de ce qu'on appelle un peu le mode de vie zéro déchet. C'est essayer d'acheter au maximum en vrac, en ayant ces emballages réutilisables avec soi. Et c'est vrai que pour une série de produits, typiquement les fruits et légumes, c'est assez facile, puisque en fait on peut avoir des petits sachets en tissu qui sont très légers, qu'on met aussi dans le fond de son sac, et puis qu'on peut remplir quand on va faire les courses. Ça marche aussi pour tout ce qui est épicerie sèche, hein, les pâtes, le riz, maintenant on trouve assez facilement en vrac. C'est parfois en plus moins cher, hein, pour la même qualité de produit, vous trouvez parfois moins cher en vrac, et puis vous évitez l'emballage, vous descendez aussi la poubelle moins souvent, c'est un avantage qu'on ignore souvent, mais c'est vrai que les gens qui pratiquent le zéro déchet constatent aussi qu'il y a ce côté un peu agréable.
Mais là, on suit la bonne volonté, voire certaines enseignes qui vont suivre un peu la mode en proposant un peu de vrac, mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas des mesures plus coercitives? Je veux dire, aujourd'hui, Laura Châtel, quand on achète un paquet de biscuits pour ses enfants, fût-il le plus bio, le plus vertueux, le plus commerce équitable, on a encore chaque biscuit emballé dans un emballage plastique.
Oui, complètement. C'est un peu notre raison d'être d'ailleurs à Zero Waste France. Hein. C'est le fait de un peu additionner les bonnes volontés citoyennes, parce qu'on est une association citoyenne, et se dire ensemble, au sein de cette ONG, on va pouvoir aussi faire une forme de lobbying, en fait, essayer d'influencer les réglementations pour avoir des choses beaucoup plus contraignantes aussi au niveau des entreprises. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat, dont on a beaucoup parlé, ça ressort aussi dans les propositions que les citoyens ont fait. Hein. Le fait d'imposer un certain pourcentage de ventes en vrac dans les commerces, y compris les supermarchés. Donc c'est sûr que c'est des choses qui avancent, mais je suis d'accord avec vous, pour l'instant c'est pas du tout généralisé, et souvent la pratique du zéro déchet tient de la volonté personnelle. C'est parfois assez contraignant, parce que comme c'est pas encore très accessible, c'est vraiment une question de volonté personnelle. Donc évidemment, notre enjeu à nous, ONG, c'est de faire en sorte que ce soit accessible pour le plus grand nombre, et sans beaucoup d'efforts supplémentaires, parce que les entreprises s'y mettent aussi, parce que les réglementations sont favorables.
Alors, je termine le message de Marguerite. Je ne vous en ai lu que la moitié. Sauf qu'avec le Covid, les magasins ne prennent plus justement ces boîtes en question. Alors, très simplement, il y aurait plusieurs questions sur l'effet Covid. Là, ces dernières semaines, ces derniers mois, on a consommé beaucoup plus de plastique que d'ordinaire.
Oui, c'est sûr qu'on a consommé beaucoup plus de plastique que d'ordinaire. Alors, au moment du confinement, pas tellement, puisque finalement, il n'y avait plus du tout de consommation extérieure, on ne consommait plus dans les commerces, dans les restaurants. Donc, en réalité, les quantités de déchets produits ont plutôt eu tendance à diminuer. Mais avec le déconfinement, effectivement, la vie, quelque part, a repris. Et souvent, ça s'est fait sur un mode un petit peu de surconsommation de produits jetables, certains nécessaires, quand on parle de certains équipements de protection, notamment dans les hôpitaux, évidemment qu'ils étaient nécessaires, mais aussi beaucoup de suremballages, de choses qui n'étaient absolument pas nécessaires, qui étaient là peut-être plus pour, peut-être dans une volonté de rassurer, mais qui en réalité n'ajoutaient rien. Nous, on a essayé de beaucoup rappeler que l'emballage plastique ne protégeait en rien du Covid, puisque le Covid restait sur cette surface comme sur d'autres, et qu'il était surtout important d'appliquer les gestes barrières de base. Mais effectivement, on a vu ça, et là, nous, on agit pour faire en sorte que surtout, ça ne s'installe pas dans la durée, en fait, ces gestes, et notamment le fait de refuser les boîtes des contenants, les boîtes des clients personnels. Ça, c'est une pratique qui doit s'arrêter, puisque on a justement une loi qui a été votée en début d'année qui réaffirmait ce droit du client d'être servi dans son propre contenant s'il le souhaitait. Donc, il ne faut pas que l'épisode, on va dire, Covid remette en cause cette pratique qui n'a pas grand-chose à voir en réalité avec la maladie.
Alors, il y a une question, une question piège. C'est pas une question piège, mais c'est un vrai problème. Aujourd'hui, c'est dans les zones urbaines que l'on consomme le plus ces plastiques à usage unique, la livraison de repas notamment, on en parlait, et c'est là qu'on trie le moins.
Oui, c'est vrai, c'est là qu'on trie le moins, notamment parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une consommation qui se fait beaucoup à l'extérieur, dans la rue, hein, on achète son repas le midi, un peu sur le pouce, et en général, on a assez peu de poubelles de tri dans la rue pour l'instant, donc du coup, il n'y a pas vraiment de solution de tri, donc il est assez normal que les chiffres de tri soient plus faibles en général que dans le monde plus rural.
La consigne est un plus par rapport au tri, nous dit Eric. Elle permet d'économiser de l'énergie pour recycler les déchets triés. Pour le verre, par exemple, plus besoin de les faire refondre pour refaire des bouteilles. C'est ce que dit Eric. Vous militez pour la consigne ou c'est trop peu comme effort ?
Non, et la consigne, c'est un outil qui peut être effectivement formidable pour réutiliser l'emballage. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a récupéré, une fois qu'on a pu le récupérer, on peut le laver et ça évite de le casser, de le fondre pour le verre, de le recycler pour le plastique. Donc, c'est évidemment un outil qu'on promeut et qui peut être très, très utile quand on parle d'emballage et notamment quand on parle du sujet qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire la vente à emporter, la livraison à domicile, le fait de mettre une consigne sur l'emballage, ça va inciter évidemment tous les consommateurs à ramener cet emballage. Donc ça peut être un des meilleurs outils, on va dire, pour généraliser la fin de l'emballage jetable.
Merci Laura Châtel.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, aux questions de nos auditeurs, en particulier Laura Châtel, responsable plaidoyer chez Zero Waste France, association qui milite pour le zéro déchet. 8h44, merci à tous ceux qui nous ont adressé des questions, des commentaires, des messages sur le hashtag Europe 1. Bon réveil à tous.
Europe 1. Dans un instant, la revue de presse. Nicolas Cantelou et Julie seront sur Europe 1. Mathieu Bellière sur Europe 1.
Et on les retrouve, Nicolas Cantelou avec Julie.
Il est 8h47 et c'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Cantelou. On revient sur cet incident. Le président allait voir une pièce de théâtre au Bouffe du Nord, La Mouche, quand des manifestants ont tenté de pénétrer dans le théâtre. Bonjour Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, ils ont pris La Mouche,
bien.
Non mais écoutez, non, soyons sérieux, c'est fou. Mais c'est fou! Je déclenche la colère même quand je vais au théâtre! Alors, si j'aurais pu comprendre, si j'étais allé voir Boeing Boeing avec Franck Leboeuf, je comprendrais que les forces de police me sortent d'urgence de là car c'est dangereux. Mais là, c'était une pièce d'un télo! Oui, vous l'avez vu, Boeing Boeing avec Franck Leboeuf? Ah oui, vous pourrez ressortir avec des séquelles. Non, mais là, c'était une pièce d'un télo, c'était au Bouffe du Nord.
Alors, justement, le journaliste qui a annoncé votre présence sur Twitter a été arrêté par la police et ça pose problème.
Écoutez, ça aurait pu être pire. Hein. Benalla aurait pu être encore mon chef de sécurité. Ah. Et là, il passait des Bouffes du Nord au baf dans sa tronche.
et puis, autre incident.
Trouvé à 3h10 du matin, entre deux enfoirés.
Non, ça s'entend.
Bon, ça va, écoutez. J'aimerais vous y voir.
Le prince
prince Harry et Meghan Markle décident donc de renoncer à leur rôle de premier plan dans la famille royale britannique.
Oh,
ils veulent s'installer en Amérique du Nord. Stéphane Bern, mais vous avez bondi à l'annonce de cette nouvelle.
Non. Alors là, ma Julie, je suis colère, je suis chafouin, je suis courroux. Ils démissionnent de leur famille en quelque sorte. Voilà, c'est cela. Notez, je peux comprendre qu'il n'a pas eu envie de démissionner de sa famille, hein, surtout pendant la période des fêtes.
Oui, bon, enfin, c'est un peu ça, quoi. Mais...
Bah, écoutez, il y a des tas de gens qui démissionnent de leur famille. Regardez, Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple. Enfin, non, lui, c'est plutôt l'inverse. Il a plutôt licencié toute sa famille. Je ne sais pas si j'ai le droit de rire là-dessus.
Non. On revient à cet autre incident du week-end, la Rotonde, le restaurant où vous aviez fêté votre qualification au premier tour. Eh ben, le restaurant a été incendié.
Oui, bah écoutez, là je dois dire que je suis assez colère, assez remonté. Je suis chafouiné, sans prendre ainsi un restaurant innocent. Vous me comprenez, Monsieur Béliard. Si, je sais que vous, au moins, il y a quelqu'un en studio qui me comprend. Monsieur Béliard est le seul qui fait une crise d'apoplexie quand on enlève une étoile à Paul Bocuse. Monsieur Béliard, lui, ne plaisante pas avec ce genre de choses.
Un gilet jaune a été retrouvé sur place, d'ailleurs. Hein.
Mais écoutez, les gilets jaunes ont un problème avec moi. C'est avec moi qu'il faut le régler, pas en s'en prenant un établissement qui n'y est pour rien, hein, sous prétexte que j'aime y aller. Est-ce que moi je m'en prends aux établissements où vont les gilets jaunes? Non, hein. Je n'ai rien fait contre la pizza dell'Arte de la zone commerciale de Villeurbanne, ou le courte paille de Vélizy 2. Hein. Est-ce que moi j'empêche les gens de flincher?
Manquerait plus que ça, monsieur le président. Allez. On connaît le prochain représentant de la France à l'Eurovision, c'est le chanteur Tom Leb, et oui, le fils de Michel, qui ira défendre les chances tricolores. Bonjour Philippe Manœuvre.
Ouais. Salut July, salut à tous. Ouais, ça y est, on sait donc qui est le chanteur français qui va aller se prendre une peignée, il faut bien dire les mots. À l'Eurovision, c'est donc le fils de Michel Leb. Hein? Comme disait son papa, ah dis donc là-bas, présentement, il va se faire manger.
Oh là, l'accent.
Je sais, j'imite Michel Leb un peu comme Michel Leb imitait les Noirs. Alors.
Écoutez, ça c'est une vacherie.
Allez, la bien-pensance, allez, la critique facile.
Nadine Morano, mais qu'est-ce que vous faites là?
Je passais dans le coin,
ah bon,
voilà, pour essayer d'abord pour saluer Marine.
Bonjour, je te vise tout à l'heure.
Ah, c'est vrai qu'elle est restée dans le studio pour Mathieu.
Oui, moi, j'ai oublié. Oh oui, je suis transparente à ce point, madame Leclerc.
C'est vrai, bon, je peux en placer une, Marine. Bon, alors, je passais dans le coin pour essayer d'inviter Mathieu à boire un verre, un Béliard, et j'ai entendu Manœuvre qui critiquait Michel Leb. Franchement, c'est un super humoriste, Michel Leb. Moi, je suis allé le voir 8 fois au spectacle. Eh bien, je peux vous dire que ça fait du bien que son fils aille à l'Eurovision, hein, même s'il va être un peu original pour le concours, faut bien le dire. Hein.
C'est-à-dire, comment ça, original?
Ouvrez. Oh, pourquoi original? Ouvrez les yeux, l'Eurovision, t'as vu l'Eurovision? Si t'es pas une femme à barbe homosexuelle, métissée, arabo-sénégalaise qui chante en combinaison de cosmonautes dans des lasers violets, ben t'as aucune chance! Hein? Tu l'as l'image?
Ah oui, vraiment?
Là, un homme blanc, hétéro, avec une guitare et un t-shirt, eh ben c'est hyper transgressif! Je sais pas si l'Eurovision est prête pour autant d'originalité!
Eh bien, merci Nadine Morano, merci d'être passée.
Bon, Béliard, t'as des plans pour cet après-midi?
Ah,
je suis déjà engagé.
Oh, bah non. Il n'y a pas que le soir, c'est les après-midi.
Regardez cette petite main sur mon genou.
Oh non, allez, on l'arrête, on va enchaîner. Allez.
Oh, n'allez pas sur europe.fr. Vous seriez surpris, chers auditeurs.
On va parler maintenant de l'opération Pièce Jaune. Brigitte Macron et Didier Deschamps ont lancé cette opération, vous savez, pour aider les hôpitaux à accueillir les familles. Bonjour Didier.
Oui, à partir de là, bonjour. Oui, bonjour et puis également bonne année à toute votre équipe,
mes
meilleurs voeux à tout le monde. Écoutez, oui, je crois qu'avec Brigitte Macron, on a lancé cette donc opération Pièce Jaune. Bon, vous savez, le sujet des hôpitaux préoccupe beaucoup le couple Macron. D'ailleurs, vous aurez noté qu'ils se sont répartis les tâches. Hein.
C'est-à-dire
que l'an dernier, lui, Emmanuel, a supprimé 960 millions d'euros sur le budget de la santé, hein, des hôpitaux. Et puis du coup, elle leur redonne, pour compenser, 29 centimes. Chacun travaille à sa façon.
Et alors, vous êtes très investi dans cette cause. Hein,
oui, j'espère que je serai aussi efficace que mes prédécesseurs. Hein. David Douillet, par exemple, ils ont un grand souvenir de David Douillet. Ils ont récolté beaucoup de fonds grâce à David. Avec David, il te regardait du haut de ses 2,08 m. Il te regardait dans les yeux, le gars tout de suite sortait la monnaie. Il rajoutait même un petit billet dans la foulée.
Hier, Emmanuel Macron rencontrait aussi plusieurs grands patrons à Versailles. BFM TV a bien sûr couvert l'événement. On va revivre cet épisode avec Christophe Delaney.
Bonjour, bienvenue sur BFM Télé. Salut à l'ami Mathieu Béliard. Emmanuel Macron rencontre actuellement, vous le savez, 200 grands patrons à Versailles. Tout de suite, un jingle à la mesure de l'importance de l'événement. Voilà, toujours donc en sobriété, on ne va pas perdre une miette de ce que va faire le chef de l'État. On le sait, il est plutôt à l'aise dans cet exercice, il est même assez brillant, disons-le. Allez, il est carrément génial. Patrick Sauce, vous avez la chance d'être à Versailles avec votre caméraman Jérôme Béchamel. Patrick Sauce, alors racontez-nous. Oui, je suis actuellement à Versailles. Emmanuel Macron et le patronat sont devant moi, tous devant moi. J'aperçois le patron de Coca-Cola. Je crois qu'il s'approche actuellement du chef de l'État. Emmanuel Macron lui fait une danse du ventre en déchirant sensuellement des pages du Code du travail à l'instant sous nos yeux. Le patron de Coca-Cola sort un contrat et un stylo, ils vont conclure. Le patron mordit le stylo, il arrache le capuchon avec les dents et c'est oui, oh là 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 là, c'est signé. Je dois vous dire, Christophe, que c'est chaud, c'est très chaud, il fait très chaud ici. L'ambiance est très très chaude, c'est mieux que le défilé Victoria's Secret. À vous, Christophe.
Direction l'Open de tennis d'Australie, Gaël Monfils entre en lice demain. Le joueur français a révélé qu'il avait un œdème osseux à la main droite, car il s'est blessé en jouant aux jeux vidéo. Nelson Monfort, vous pensez qu'il peut être impacté par cette douleur?
Bon, écoutez, un œdème osseux à la main droite, car il s'est blessé en jouant aux jeux vidéo. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Écoutez, ça démarre, vous l'avez compris, très très fort pour les Français qui développent à chaque tournoi des trésors de créativité. Vous l'avez dit, cette fois, c'est Gaël Monfils qui s'est blessé en jouant aux jeux vidéo, mais il n'est pas le seul puisque Joe Wilfried Tsonga, vous devons de l'apprendre, s'est fait un traumatisme crânien en se brossant les dents.
Ah bon ? Non mais attendez, mais comment il a fait son compte, son gars ?
Alors, je dois vous confier une chose, c'est que les médecins cherchent encore. On ne sait pas comment ils font, c'est le souci. Je discutais d'ailleurs hier avec le chirurgien de Benoît Paire.
Ah bon ?
Oui, Benoît qui est toujours en soins intensifs, il a voulu ouvrir un pot de cornichon. Le couvercle était serré trop fort, Benoît insistait, et il s'est fait une rupture d'anévrisme.
Ça n'a pas l'air d'être bien parti, en tout cas pour les joueurs français.
Hein, ah, vous savez, mes chers, je voudrais vous confier que les joueurs français, c'est tout à fait ça. On n'en attend pas grand-chose et au final, on est déçus quand même. Voilà, gardez cette formule, je crois qu'elle est dans le marbre. Attendez, j'aperçois justement Gaël Monfils qui vient s'échauffer. Voilà, il met ses chaussures à l'instant et nous avons... Ah oh là là. Oh non, apparemment c'est une fracture de la hanche, fracture du bassin. Putain, mais comment ils font? Comment ils se démerdent? Voilà, on embarque Gaël à la clinique. Un tournoi qui s'annonce encore grandiose pour le tennis tricolore. À vous Julie, à vous Paris.
Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse bien sûr, à retrouver sur Europe1.fr. 8h57, il est là. Philippe Vandel, c'est Culture Média, la matinée qui continue. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes
des
et tous.
Des invités de marque aujourd'hui. Hein.
Ah oui, d'abord, on va parler du réseau social Instagram qui lance une nouvelle fonction autour de la vidéo. Ça concerne 1 milliard d'habitants, mais ça, vous en fichez. Parce que ce qui vous intéresse, c'est mon invité ensuite.
Évidemment.
Constance Benquet, la présidente d'Europe 1. En fait, Mathieu Béliard va écouter l'émission pour savoir ce qu'il va faire à la rentrée.
Exactement.
Vous serez au parking.
Ça capte pas pour vous écouter. Je vais rester là. Je vais rester là et mettre la pression.
Vous serez là. Constance Benquet va raconter les nouveautés et puis ce qui reste de la rentrée. Il y aura aussi, on entendra Stéphane Bern, Julien Bugier et aussi Manu Payet qui déboule, non pas sur Europe, mais ça fait partie du groupe, dans les locaux. Il sera à la matinale de Virgin Radio.
Au 5e étage.
Exactement. Et puis Raphaël Carlier, alias Carlito, vous connaissez le duo McFly et Carlito.
Oui.
Il fait un livre, il a eu un enfant, même deux. Ça s'appelle Papa 2.0. Et c'est très, très intéressant, drôle et surprenant.
Culture Média, la matinée qui continue avec Philippe Vandel et avec Constance Benquet.
Exactement.
Président d'Europe, Philippe Vandel, bonne journée à vous. Omblin, on revient demain
à partir de 5h avec Julien Pierce.
Je serai là en direct à 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.
C'était Mathieu Béliard sur Europe 1. Europe 1.